Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'un temps où Vienne, en Autriche, était assiégée par les Turcs. Bonjour Franck.
Bonjour Ombeline, bonjour à tous. Ce temps n'est pas si lointain, somme toute, c'était en 1683, à l'époque où chez nous, Louis XIV installait sa cour à Versailles. Pour nous parler de cet événement historique majeur, j'ai fait appel à l'auteur d'un ouvrage passionnant sur les relations entre l'Empire ottoman et l'Europe, Jean-François Solnon, que vous connaissez bien. Et puis, je n'oublie pas que tout à l'heure, à la fin de l'émission, j'aurai à répondre à la question de l'INSEE sur les origines du croissant et des viennoiseries, et quelque chose me dit qu'il y a un certain rapport entre ces deux sujets.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Des hordes d'hommes qui s'entretuent, des incendies de multiples endroits, à la fin du XVIIe siècle, les peintures de l'école autrichienne témoignent de la violence du siège de Vienne en 1683, alors que la ville est assiégée par les Ottomans. Ça va devenir un véritable sujet pour les décorateurs et pour les illustrateurs. L'ambition des Ottomans, dominer toute l'Europe occidentale jusqu'à l'Angleterre, et à travers les Viennois, c'est en vérité toute la chrétienté qui est visée. Après tout, leur cité constitue une sorte de verrou entre l'Empire turc musulman et l'Occident chrétien. Précisons que le siège de 1683 n'est pas le premier, puisque les Turcs sont déjà venus à Vienne. C'était en 1529. D'ailleurs, on va faire, si vous le voulez bien, un petit retour en arrière. Le 24 septembre 1529, c'est la panique à Vienne. Les troupes ottomanes, les troupes du sultan Soliman le Magnifique, c'est-à-dire une marée humaine de quelque 150 000 hommes, ces troupes encerclent la ville. Il faut dire que seulement 150 de nos kilomètres séparent Vienne de l'Empire ottoman qui s'étend alors des Balkans jusqu'à l'Afrique du Nord. Les frontières de l'Empire ottoman venaient déjà très près de Vienne. Dès le mois de mai, la ville était au courant de l'arrivée prochaine d'une immense armée partie d'Istanbul, ce qui a provoqué l'inquiétude énorme parmi des habitants qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Peter Stern von Labar, qui est secrétaire d'État à la guerre au service des Habsbourg, écrit dans sa chronique sur la défense de Vienne « Soliman, cruel tyran et ennemi juré de la foi chrétienne, fait route vers Vienne pour vaincre et asservir la chrétienté ». Cependant, à cause du mauvais temps, cette avancée ottomane a pris du retard. Les hommes et les chameaux, parce qu'il y a des chameaux dans les armées ottomanes, tout ce monde-là s'est enlisé dans la boue. On a même vu des convois emportés littéralement par les inondations. Des canons ont dû être abandonnés. Enfin, tout ça va vraiment très mal. Et après 4 mois et 2000 kilomètres parcourus, où des soldats ont tout pillé, détruit tout sur leur passage, où des femmes et des enfants ont été réduits en esclavage, où des hommes ont été décapités par dizaines, l'armée principale ottomane se trouve enfin à destination, si je puis dire. Elle est là, devant Vienne. Même si la ville est fortifiée, les habitants pensent que les remparts ne vont pas tarder à céder. Et bien entendu, on en a vu beaucoup qui se sont enfuis. En vérité, il ne reste dans Vienne que 400 hommes aptes au combat. Vous imaginez ça? L'empereur Charles Quint, qui à l'époque est en pleine guerre contre la France, ne peut envoyer que 7000 lansquenets, encore à la dernière minute. La défense de Vienne est confiée à un mercenaire allemand. C'est un monsieur qui a 70 ans. C'est le comte von Salm. Le comte von Salm va disposer de très peu de moyens, disons-le. Il a 23 000 soldats, 75 canons, et en face, il y a donc 150 000 Ottomans qui arrivent avec toutes leurs machines de guerre, etc. Alors, on construit à la hâte des bâtiments à l'épreuve du feu, des barricades, etc. Soliman, de son côté, veut une chose, une seule, la capitulation de Vienne. Il a tout intérêt à l'obtenir, cette capitulation, car malgré le nombre très important d'hommes, l'armée turque n'est pas, disons-le, très en forme. Une grande partie des troupes sont malades et parmi les valides, un tiers vient de la cavalerie légère. D'autre part, l'artillerie lourde des Ottomans a dû être abandonnée, je vous l'ai dit, dans toutes ces intempéries qui se sont succédées depuis des semaines. Soliman le Magnifique envoie donc 4 prisonniers dans la ville de Vienne pour porter un message qui est un appel à la capitulation. Et en face, Les Viennois refusent, bien entendu. Refus net. Quelques heures après ce refus, la bataille va donc commencer. 300 petits canons ottomans ouvrent le feu sur Vienne. L'attaque, pour l'instant, ne cause que des dégâts matériels et la réponse ne se fait pas attendre. Une centaine de cavaliers vont réussir à se frayer un chemin et à abattre deux équipes de canonniers. Les Ottomans décident à ce moment-là de creuser des espèces de tranchées en direction de Vienne. On va mettre un siège, si vous voulez, et ils vont placer dans les galeries des charges explosives. C'est comme ça, hein, c'était le principe. Principe même d'une prise de ville par les sièges, on essaie d'effondrer les remparts, tout simplement. On essaie de saper les fondements. Dans le même temps, les rares survivants des attaques commises par les Turcs à la périphérie de Vienne réussissent à se réfugier comme ils peuvent. Une nouvelle redonne bientôt de l'espoir aux Viennois. C'est la pluie qui tombe et le froid qui s'installe sous terre. Les tranchées creusées par les mineurs turcs sont gorgées d'eau, les barils de poudre ne sont plus du tout en état de faire leur office, les chameaux tombent malades, les derniers qui restaient encore en vie, la nourriture s'amenuise, ce qui fait que les troupes sont de plus en plus exsangues, la pluie va finir par se calmer, mais les Viennois désormais savent que des barils de poudre ont été placés sous les remparts et tout ça va sécher, bien entendu. Des lance-quenets sont envoyés sous terre, près des pans de murs menacés. Au même moment, les Turcs font exploser un premier baril de poudre, une brèche est ouverte, des Turcs vont essayer d'en profiter, les lance-quenets viennois les attendent, les combats sont très violents et les Ottomans sont mis en fuite. Le 11 octobre 1529, Soliman organise un conseil de guerre. Il décide de lancer une nouvelle attaque. Des grades de capitaine sont promis à tous ceux qui veulent bien participer à cette attaque, ainsi qu'un butin très important. Et pourtant, c'est une nouvelle défaite dans le camp ottoman. 5 jours plus tard seulement, l'armée ottomane repart, elle lève le siège. Le siège de Vienne a quand même fait 15 000 morts, disparus et capturés. Il n'empêche, la capitale a tenu bon. Ceux qui célèbrent la victoire la plus inespérée de toutes les victoires, d'une certaine manière, ne peuvent pas savoir, évidemment, qu'un siècle et demi plus tard, les Ottomans seront de retour.
Europe, un extrait de l'opéra Alcyone composé par Marin Marais. Au cœur de Vienne assiégée après l'attaque turque en 1529, vous nous parlez, Franck Ferrand, du retour des Ottomans dans la cité autrichienne.
Un siècle et demi plus tard, en août 1682, c'est un tout autre sultan qui règne bien entendu au palais de Topkapi. Il décide de déclarer la guerre à l'empereur Léopold Ier de Habsbourg. Le gouvernement turc agit là comme un seul homme. Le sultan va concentrer l'armée ottomane et les troupes provinciales à Belgrade. On est là au printemps, hein, mai 1683. Et quelques semaines plus tard, le grand vizir et chef des armées du sultan, il s'appelle Kara Mustafa, qui est un homme très énergique, très compétent, très ambitieux. Kara Mustafa va décider de marcher droit sur Vienne, sans même attendre l'approbation de son maître. Et tandis que l'armée du vizir progresse le long du Danube, Vienne s'apprête de nouveau à recevoir les assaillants. Car ce nouveau siège qui s'annonce ne surprend pas l'empereur Léopold. Dès l'hiver 1682, des mesures avaient été prises pour renforcer les fortifications. D'autre part, des traités ont été signés pour essayer de se rapprocher de la papauté, de la Pologne. Léopold Ier peut compter sur les puissances catholiques. Gênes, Venise, la Toscane, l'Espagne, le Portugal, un certain nombre de princes allemands également. Le seul pays qui fasse défaut, si je puis dire, qui se taise dans cette affaire, c'est la France de Louis XIV, on y reviendra dans un instant avec Jean-François Solnon. Le 14 juillet 1683, une sorte d'océan de tentes et de bivouacs se répand sous les murs de Vienne. L'armée de Kara Mustafa compte près de 150 000 soldats. C'est à peu près le même nombre que ce qu'on avait connu en 1529. On est à peu près dans le même ordre de grandeur. 40 000 de ces soldats appartiennent aux troupes régulières ottomanes. 70 sont issus de troupes provinciales. Le reste est formé par 20 000 Tatars de Crimée, 6 000 hommes levés par le prince de Transylvanie, 6 000 Moldovalaques, des mécontents hongrois également, des nobles opposés aux Habsbourg, etc. Quand même une armée un peu faite de briques et de brocs. La ville elle-même, à cette minute, n'abrite plus la cour, puisque Léopold et son gouvernement sont déjà partis, ils se sont repliés à Passau, ce qui n'empêche pas 60 000 habitants, cette fois, de demeurer dans Vienne. Vienne qui est mise sous le commandement d'un homme expérimenté, le comte von Starnberg. Il a à sa disposition 20 000 hommes seulement pour faire face aux quelques 150 000 qui sont en train de mettre le siège. Il a également la milice, tout ça divisé en 8 compagnies. La milice, c'est 1800 hommes, hein, c'est pas énorme, mais alors évidemment, ce sont des gens très valides et très expérimentés. La proposition de capitulation comme un siècle et demi plus tôt est rejetée et c'est déjà l'heure des premiers bombardements. Très vite, les Ottomans vont gagner du terrain. Ils ont une artillerie assez faible, mais comme en 1529, ils recommencent leur système. Ils creusent des tranchées profondes. On va placer le plus près possible des murs et des fondations, des grands remparts, des barils de poudre. Des mines vont exploser de chaque côté. Le 12 août 1683, après 5 jours de combat, les Turcs sont déjà maîtres de la contre-escarpe des fortifications. On peut dire que là, l'étau se resserre malgré la résistance des assiégés et malgré la volonté d'en découdre, hein, car du côté des Viennois, il n'est toujours pas question d'accepter la moindre capitulation. Les pertes sont lourdes de part et d'autre et dès le 26 août, les janissaires turcs refusent de combattre, rappelant que le corps des janissaires ne doit pas être employé plus de 40 jours de suite au siège d'une forteresse. Il y a comme ça des règlements dans l'armée ottomane, si vous voulez. Seul l'espoir d'un pillage de la ville les maintient au combat. Vous me permettrez de croire que s'ils se sont montrés à ce point sourcilleux, c'est qu'ils avaient l'intention de faire céder le grand vizir et de lui faire obtenir un certain nombre d'accords préalables pour le partage du butin. Bref, à Vienne, la ligne des fortifications qui résiste depuis près de 2 mois est sur le point de tomber. Les munitions commencent à manquer, les vivres s'épuisent, la dysenterie fait des ravages. On compte en moyenne 60 morts par jour dans cette ville qui n'en peut plus. Comme toujours, dans ce genre de situation, les rumeurs les plus folles circulent. On dit qu'il y aurait des traîtres au sein de la population viennoise, etc. On aura peut-être l'occasion d'y venir tout à l'heure. Le soir du samedi 11 septembre 1683, évidemment moi j'ai l'air de tourner rapidement les pages du calendrier, mais dites-vous que chacune de ces journées est une journée de souffrance, bien entendu. Le soir donc du 11 septembre, alors que la ville est sur le point de tomber, les défenseurs de Vienne aperçoivent des feux de bivouac au loin. Ils en sont sûrs, c'est en vérité l'armée impériale qui est là et qui vole à leur secours. Ah, alors là, ça change tout parce que l'armée impériale, elle est composée de 40 000 hommes, dont 24 000 fantassins sous le commandement de Charles V de Lorraine. L'artillerie est importante, 400 pièces de tout calibre et c'est pas tout. On compte plus de 8 000 Bavarois, 4 800 fantassins, 3 400 cavaliers, etc. L'électeur de Saxe a envoyé de son côté 7 000 hommes, tandis que la Souabe et la Franconie en ont envoyé 8 000, à quoi il faudrait ajouter 18 000 Polonais, 7 000 Lituaniens et des Cosaques et des Zaporogues, etc. Toutes sortes de volontaires étrangers, y compris de grands capitaines. Je pense au prince Eugène de Savoie, bien entendu, qui est tout à fait notable. Cette armée est composite, là encore. Elle n'en rassemble pas moins 65 000 hommes frais, si je puis dire, et son commandement est confié au roi de Pologne, Jean III Sobieski, qui s'est illustré quelques années plus tôt en Ukraine. Déjà à l'époque, Sobieski avait été le vainqueur des Turcs.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de Vienne assiégée, en 1683, vous relatez, Franck Ferrand, la bataille qui va voir s'affronter les Turcs et les défenseurs de Vienne, l'armée coalisée catholique.
Oui, la date est facile à retenir pour nous. On est le 11 septembre de cet an de grâce 1683. L'armée coalisée catholique est forte de 65 000 hommes, je vous l'ai dit, et elle est en train d'assiéger les assiégeants d'une certaine manière. Elle s'approche de Vienne. Un plan de bataille est arrêté. Le gros de l'armée doit s'emparer des hauteurs qui dominent Vienne à l'ouest et elle doit fondre le plus tôt possible sur le camp ottoman. Le grand vizir Kara Mustafa ordonne alors à ses gardes rapprochés et à ses janissaires de poursuivre le siège dont il croit la fin imminente. Son but à lui, c'est d'entrer dans Vienne avant que les autres n'aient réussi à lui mettre la main dessus. On joue la montre. Il faut bien entendu prévoir un certain nombre de soldats pour défendre néanmoins les lignes turques. Dans la nuit du 11 septembre, l'armée impériale, les Autrichiens, les Saxons placés à gauche occupent la colline du Kahlenberg, on est au nord de Vienne. Il s'agit de se rapprocher maintenant du Danube pour venir carrément libérer la ville. Les troupes des États de l'Empire au centre, vous avez à droite des Polonais, tout ce monde prend progressivement position sur les hauteurs qui, elles, sont donc situées à l'ouest de Vienne. Ce sont ceux qui doivent agir en premier, comme je vous le disais. Les positions turques sont situées en contrebas, avec le camp principal situé au sud. Le lendemain matin, le dimanche 12 septembre, il est 4 heures, hein, on est vraiment à l'aube, une messe est célébrée, on bénit les soldats de l'armée alliée, et à 5 heures, cette armée impériale, sur l'aile gauche et celle des princes allemands au centre, avance sur l'ennemi. Les combats vont pouvoir commencer à midi après plusieurs contre-attaques des Ottomans. On peut dire que les impériaux ont déjà fortement progressé et que maintenant, ils se sont emparés de villages fortifiés qui leur donnent une position tout à fait avantageuse. Une heure plus tard, les Polonais, ils sont au nombre de 20 000, progressent à leur tour sur l'aile droite. Ils n'engagent pas la bataille contre les Ottomans, mais ils occupent toutes les hauteurs alentour. Et c'est de ces hauteurs que leurs cavaliers vont bientôt pouvoir attaquer. Les cavaliers en question, ce sont les fameux hussards, bien entendu. Il est 15h30 à ce moment-là. Les troupes impériales reprennent leur avancée, les combats sont toujours très violents et les coalisés arrivent bientôt au camp où se trouve le chef des Ottomans, le vizir Kara Mustafa. Des mousquets des troupes du Saint-Empire déciment à ce moment-là les unités turques qui essaient de défendre Kara Mustafa le plus longtemps possible. Il est 16 heures quand le roi de Pologne, quand notre Jean Sobieski, avec sa cavalerie lourde, entre en action et lance une nouvelle offensive, cette fois depuis les collines où s'étaient installés tous ces gens. En fait, on a l'impression de plusieurs vagues qui fondent l'une après l'autre sur ceux qui jusqu'alors étaient en position de force, qui étaient les assaillants, au bord de faire tomber Vienne. Ces multiples charges vont enfoncer les lignes ottomanes un peu partout. Elles permettent aux coalisés de prendre l'assaut la Türkenschanze par l'ouest. Et la Türkenschanze, c'est le fort principal. Si elle tombe, alors là, c'en est fini du siège du côté des Turcs. Ça veut dire que les Turcs seront perdus. À 17h, la position en question est devenue quasiment indéfendable. Le commandement turc, à ce moment-là, décide de se replier vers le sud, donc vers le camp principal. Seulement, il y a des troupes ottomanes déjà qui commencent à faire défection. Les fameux Tatars dont je vous parlais, les Hongrois, etc. Tous ces gens-là ne sont plus là pour combattre. Et nombre de soldats sont taillés en pièces par la cavalerie du roi de Pologne, par ailleurs. Sobieski ne fait pas de quartier. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tant qu'on a l'offensive, tant qu'on est à l'attaque en quelque sorte, une armée composée de manière très hétéroclite peut tenir le choc. Mais lorsqu'on en arrive à une position défensive et lorsqu'on commence à sonner la retraite et que les soldats de leurs propres yeux aperçoivent la débandade, alors là, vous voyez la sauce qui fige dans un premier temps et qui se disperse dans un second. À 18h, 3 corps de cavalerie polonais et un corps impérial, ça fait beaucoup de monde en tout, ça fait 20 000 hommes, tous ces 20 000 hommes prennent la direction du camp du vizir avec Sobieski et 3 000 de ses hussards. Là, cette fois, ça sent le roussi, si j'ose dire, pour les troupes ottomanes qui ne vont pas résister longtemps, qui fuient maintenant dans toutes les directions. Et pendant leur repli, on va voir beaucoup, beaucoup de soldats turcs tombés. Les janissaires du grand vizir se battent jusqu'au dernier, mais le reste de l'armée ottomane s'est retiré en désordre. On a l'impression de lire la bataille du Cid sous la plume de Corneille, c'est vraiment ça. Les Turcs, en se retirant, ont abandonné, vous savez, le flux les apporta, le reflux les remporte, si ma mémoire est bonne. 4 gros canons, 160 canons légers, des provisions importantes, un important butin, tout ça est perdu. Le marquis de Sebeville écrit alors à Louis XIV, qu'à 19h, les janissaires ont abandonné la tranchée, qu'il y a eu environ 6000 Turcs tués et le reste s'étant retiré en bon ordre. On n'avait pas osé les attaquer, leur nombre étant de beaucoup supérieur. Kara Mustafa en personne finit par s'enfuir après avoir ordonné de tuer ses prisonniers et dans la soirée du 12 septembre 1683 à 22h, Vienne est donc libérée. Libérée après 59 jours d'un siège terrible. Les Viennois acclament ce qu'ils peuvent encore, acclament leur libérateur. Les 3000 Turcs qui restaient dans les tranchées d'approche sous les murs de Vienne sont tués. Enfin, certains sont faits prisonniers, beaucoup sont tués. On compte moins de 5000 morts dans les rangs de l'armée impériale et quelques 15 000 dans le camp ottoman. La nouvelle de la victoire de Vienne et de la fin du siège va dès lors pouvoir se répandre dans l'Europe entière. Est-ce un soulagement pour tout le monde? Alors là, c'est une question qui mérite d'être posée.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de la marche du régiment du roi composé par Jean-Baptiste Lully. Le siège de Vienne en Autriche est aujourd'hui au cœur de l'histoire. Siège en 1683. Vous recevez pour en parler Franck Ferrand, l'historien et professeur émérite des universités Jean-François Solnon, auteur notamment du livre Le Turban et la Stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe. 16e, 20e siècle, affrontement et fascination réciproque. Un ouvrage paru chez Perrin.
Oui, Jean-François Solnon, lorsqu'on lit les récits de l'époque, le duc de Lorraine notamment dit que dans cette rencontre, dans cette bataille, le roi de Pologne, c'est-à-dire Jean Sobieski, s'est taillé une gloire immortelle. Il est un peu le héros de la libération de Vienne en 1683.
Il l'est même davantage que le commandant en chef de ses troupes de la Ligue, eh oui, c'est-à-dire Charles V de Lorraine. Et bien évidemment, il l'est davantage encore que l'empereur Léopold, qui lui s'est retiré de Vienne pour aller se réfugier à Linz. C'est si vrai qu'en 1919, au moment où la Pologne renaît de ses cendres, le gouvernement de Varsovie a envoyé au Vatican une grande toile d'un des grands peintres polonais d'histoire qui s'appelle Matejko et qui représente justement le siège de Vienne de 1683, ce qui est toujours d'ailleurs dans les galeries
Bien
du Vatican
sûr, oui,
aujourd'hui,
oui.
Et qui montre suffisamment qu'on a eu l'impression que la chrétienté était sauvé à partir de cette date.
Alors ça, c'était du côté chrétien. Du côté musulman, c'était évidemment la débandade. Et Kara Mustafa, qui était à la tête des troupes, va finalement être décapité.
Mais Kara Mustafa est décapité pour une raison assez simple, c'est qu'il n'a pas obéi aux ordres du sultan. Le sultan de l'époque, qui s'appelait Mehmet IV, avait fixé à Kara Mustafa une tâche qui consistait à s'emparer de villes aux confins de la Hongrie et de la Styrie et de l'Autriche. Mais en aucun cas, il n'avait demandé à ce que l'armée ottomane puisse faire le siège de Vienne. S'il avait gagné, il aurait peut-être probablement tiré profit de cette victoire, mais il a perdu. Si bien que, après le siège, après le fameux 12 septembre, il se réfugie à Belgrade, et là, il pense préparer une nouvelle campagne militaire pour l'année suivante. Mais il reçoit le fameux lacet de soie qui lui est envoyé d'Istanbul et comprend à ce moment-là qu'il lui faut être exécuté, donc étranglé, et l'affaire sera terminée. Alors pour les Ottomans, c'est non seulement la perte donc de Kara Mustafa, qui était en même temps grand vizir, c'est-à-dire premier ministre,
oui, c'est ça, l'homme fort du régime,
du sultan, mais c'est que les impériaux vont tirer profit de cette victoire et vont tenter et réussir en grande partie à faire la reconquête de la Hongrie. La Hongrie est ottomane depuis le début du XVIe siècle. Et là, les troupes impériales vont reprendre Buda, oui, en 1686, vont descendre en quelque sorte le Danube, vont remporter une victoire là où elles avaient été défaites un siècle auparavant à Mohács, et puis vont même prendre la ville de Belgrade. Alors là, on se dit, alors c'en est fini de l'Empire ottoman, c'est la décadence de l'Empire ottoman. Pas vraiment. parce que c'est une avancée impériale qui rencontre des obstacles et qui rencontre d'ailleurs des murs, oui. Puisque Belgrade va être repris par les Turcs.
Alors évidemment que encore au XVIIIe siècle et même encore au début du XIXe siècle, il y aura de grands moments et de grands épisodes dans l'histoire ottomane. Ça ira nettement moins bien après contre les Russes, bien entendu. Enfin, nous, on n'ira pas aussi loin aujourd'hui. Et puis, un jour, on finira par parler de l'Empire comme de l'homme malade de l'Europe, n'est-ce pas, au moment de la Première Guerre mondiale. Mais est-ce que le début du déclin, ce serait ce repli, ce serait cet échec de 1683 à Vienne ?
C'est peut-être pas aussi linéaire que cela. Les difficultés de l'Empire ottoman datent de la première moitié du XVIIe siècle, dans une période qu'on appelle le sultanat des femmes. C'est-à-dire que ce sont les sultanes, les épouses ou les mères des sultans,
les validés,
celles qu'on appelle les validées, et ce sont elles qui gouvernent le pays. Et il y a un signe qui ne trompe pas d'ailleurs de cette décadence de l'Empire ottoman dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est que l'Europe est à l'époque à feu et à sang, c'est la guerre de 30 ans. L'Empire ottoman aurait pu profiter de ces divisions chrétiennes dans l'Europe du temps, il n'en profite pas. Mais à partir du milieu du XVIIe siècle, il y a de nouveaux grands vizirs qui prennent les responsabilités politiques, c'est ceux qu'on appelle les queprulus. Ce sont des vizirs albanais qui se succèdent les uns les autres, de père à fils, d'oncle à neveu, et qui vont redresser...
C'est à la grande époque du népotisme, là.
Exactement, et qui vont redresser l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman a encore de belles années devant lui. Il n'en reste pas moins que 1683 a été considéré en Europe occidentale comme une sorte d'équivalent de la bataille de Lépante,
voilà,
1571.
Dont nous parlions il y a quelques semaines ensemble. Donc 1571, c'était la bataille navale de Lépante qui mettait fin en quelque sorte à l'hégémonie maritime de l'Empire ottoman.
Orientale, voilà. C'est ça. Hein, des Ottomans.
Et puis 1683, c'est l'échec du siège de Vienne qui va commencer à marquer une forme de repli terrestre. Alors faisons un tout petit peu d'histoire fiction. Et si Kara Mustafa avait réussi son coup? Et si à quelques jours près, il avait réussi à prendre Vienne? Est-ce que ça aurait changé la face du monde et de l'histoire?
Les Ottomans ont un projet, une sorte de mythe, c'est de prendre ce qu'ils appellent la pomme d'or, qu'on appelle encore quelquefois la pomme rouge. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une ville qui annoncerait en quelque sorte la fin de l'histoire ottomane. Alors on avait bien entendu...
La Parousie.
Oui, c'est une sorte de... Alors on a essayé de savoir quelle était cette ville. Curieusement, ce n'était pas Constantinople. D'ailleurs, Constantinople n'était pas une fin en soi. C'était une étape
1453,
sur la progression des Turcs dans les Balkans. Alors, on a songé à Vienne, première expérience 1529. On a même songé à Rome, bien entendu. Donc, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est presque inaccessible, d'ailleurs. Et tant que cette pomme d'or est inaccessible, elle le restera, d'ailleurs, l'histoire ne sera pas terminée. Alors à partir de 1683, les Ottomans considèrent qu'ils sont arrivés au maximum de l'extension géographique. Si Vienne était tombée entre les mains des Turcs, je ne pense pas que les Turcs aient pu aller au-delà de Vienne. J'en veux pour preuve la situation de ce qui est au sud-est de Vienne, c'est-à-dire de la Hongrie. La Hongrie a été envahie une première fois par les Ottomans en 1526. Est-ce que toute la Hongrie est devenue ottomane? La réponse est
pas
non.
Pour autant, voilà,
non.
C'est ça.
Il y avait encore une Hongrie royale entre les mains des Habsbourg, il y avait une Transylvanie entre les mains de quelqu'un qui dépendait de la Sublime Porte, c'est-à-dire du gouvernement ottoman, puis entre les deux, il y avait la Grande Plaine hongroise qui est devenue ottomane. Donc ça ne s'est pas fait immédiatement. Et surtout, il faut bien se rendre compte qu'on est loin ici des bases ottomanes. On est très loin d'Istanbul. Par conséquent, ce qui peut limiter la puissance ottomane, c'est la distance qui sépare d'Istanbul. Et puis, dans le cas précis du siège de Vienne de 1529, c'est le climat, c'est la météo. Donc, même si Vienne était tombée,
ça aurait été l'ultime étape.
C'était le maximum. Oui. C'est un peu comme dans l'Empire romain. L'Empire romain a atteint son maximum au temps de Trajan. Il ne peut pas aller au-delà.
Voilà, c'est ça.
Tout empire périra, n'est-ce pas?
Eh oui. Et là, il était à sa phase ultime d'expansion avant le repli fatal de tout empire. Bon, ça me donne envie de vous poser la même question que l'autre jour à propos de Lépante. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre politique et territoriale ou est-ce qu'il s'agit d'une guerre religieuse et de civilisation? Est-ce que c'est les chrétiens contre les musulmans, cette histoire du siège de Vienne?
Je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Ça a été considéré en effet comme une victoire de la chrétienté sur l'islam. Et d'ailleurs, Jean Sobieski, qui est donc roi de Pologne, est une sorte de héros de la cause chrétienne. La Pologne apparaît d'ailleurs ici comme le rempart de la chrétienté.
Là, vraiment, oui.
Ça avait d'abord été la Hongrie, mais la Hongrie avait cédé, donc c'est la Pologne qui est le rempart de la chrétienté. En revanche, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que dans l'armée ottomane, il y a des soldats chrétiens. Les fameux malcontents de Hongrie, c'est-à-dire des gens qui sont opposés aux Habsbourg parce que la vision politique des Habsbourg ne leur convient pas, et qui sont dirigés par le comte Thököly, et qui est présent d'ailleurs au siège de Vienne, sont des chrétiens. Le prince de Transylvanie, qui dépend d'ailleurs de la Sublime Porte, c'est un chrétien. Donc on a en effet une armée ottomane hétérogène, mais hétérogène même sur le plan religieux. Alors ça diminue, ça modifie un petit peu l'idée qu'on se fait d'une lutte brutale entre l'islam et la chrétienté.
Ce n'est en rien une guerre de religion. C'est bien l'expression de l'hégémonisme, de la volonté d'expansion de l'Empire ottoman.
C'est ce qu'on appelle le droit du sabre.
C'est ça, voilà, c'est ça. Alors vous évoquez tout ça, bien entendu, dans votre ouvrage « Le Turban et la Stambouline ». Il faut expliquer ce que c'est que la stambouline, du reste.
Oui, d'autant que c'est un mot qui ne figure pas dans les dictionnaires français. Le turban, chacun sait de quoi il s'agit, évidemment, jusque dans les couvre-chefs de la mode féminine. Encore que, à l'époque, il y avait 60 manières de nouer son turban. Vous voyez que c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Quant à la stambouline, eh bien, c'est une sorte de redingote coupée à l'européenne. Et on voit apparaître ce nouveau vêtement dans la première moitié du 19e siècle. Et si vous voulez, le turban et la stambouline résument les rapports entre la chrétienté, disons l'Europe, et l'Empire ottoman. Le turban, c'est la conquête. Le siège de Vienne est l'expression même de cette conquête. La stambouline, c'est l'ouverture de l'Empire ottoman aux influences occidentales.
Ouais,
tout y est.
Symbole de l'Occident. Donc, alors, l'ouvrage s'appelle « Le turban et la stambouline, l'Empire ottoman et l'Europe, 16e, 20e, affrontement et fascination réciproque ». C'est publié comme toujours avec vous chez Perrin, bien entendu. Et vous évoquez bien sûr les sièges de Vienne dans cet ouvrage. Ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir, Jean-François Solnon, sur le contexte de cette expansion. C'est-à-dire qu'au moment en 1529 où les Turcs viennent s'installer sous les murs de Vienne, ils sont déjà partout autour d'une certaine manière.
Depuis trois ans, ils sont en Hongrie parce que l'événement le plus fameux, c'est la victoire ottomane dans le sud de la Hongrie, dans une région de marécage proche d'ailleurs du Danube, qui est la bataille de Mohács, et qui date de 1526. On ignore cette bataille en Occident, mais tous les petits collégiens hongrois la connaissaient, leur 1515 à eux, si vous voulez, mais dans le cas de 1515, c'était une victoire, ici c'est une défaite. C'est-à-dire qu'en deux heures de bataille, en 1526, la Hongrie a perdu son roi, qui est mort au combat, a perdu son armée et a perdu son État. Et à partir de cette date-là, eh bien, les Turcs vont pouvoir balayer, en quelque sorte, la grande plaine hongroise. Ils vont jusqu'à Buda, ils prennent Buda, mais ils n'y restent pas. Ils ont pris d'ailleurs Buda trois fois de suite.
Il faut signaler que Budapest est constitué de deux villes, en fait, de part et d'autre.
Oui, et Budapest n'existe pas. En tout cas, la liaison entre les deux n'existe pas. Buda, c'est sur la colline qui domine la rive droite du Danube. Pest, c'est la plaine qui va se constituer par la suite. Donc, c'est Buda qui a été prise, mais abandonnée. Ça donne l'impression, si vous voulez, de raids qui sont faits. Et ceci jusque vers 1540-41, pour des raisons un peu trop compliquées à évoquer, où là, la Hongrie va être divisée en trois zones. Il y a toute une région qui est au nord, qui va de la Croatie jusqu'à la Slovaquie d'aujourd'hui, qui est entre les mains des Habsbourg, toujours. Il y a une région est montagneuse, la Transylvanie, qui est entre les mains de princes hongrois qui rendent hommage aux grands Turcs. Puis entre les deux, il y a cette plaine hongroise et on crée ici ce qu'on appelle un pachalik, c'est-à-dire la demeure du pacha, et là où on va pouvoir créer des mosquées, créer des bains, puisque c'est un aspect de la civilisation ottomane. Et lorsqu'on va aujourd'hui à Budapest, on peut fréquenter ces bains turcs, dont un d'entre eux date du XVIe siècle. Et on a l'impression d'être en effet dans un paysage qui est celui d'Istanbul. Donc les Turcs sont présents. Et évidemment, ils sont tentés par cette fameuse pomme d'or. C'est-à-dire éventuellement...
qui les largue en quelque sorte.
Et Vienne est toute proche.
Eh bien, Vienne est toute proche et ils vont aller frapper à la porte.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les sièges de Vienne en Autriche en 1529 et en 1683 sont au cœur de l'histoire. Et pour en parler, vous recevez Franck Ferrand, l'historien et professeur émérite des universités, Jean-François Solnon.
On va vite passer sur 1529, Jean-François Solnon, pour venir plus en détail à l'histoire de 1683. Mais ce premier siège de 1529, c'est un échec complet. Il faut dire qu'il ne fait pas beau, évidemment.
Je crois que la raison principale, c'est une raison météorologique, les Turcs sont arrivés, ils ont dû partir d'Istanbul au mois de mai. Il aura fallu du temps pour atteindre Belgrade. On refait ses forces à Belgrade et puis on pénètre ensuite dans la plaine hongroise. Les troupes ottomanes arrivent devant Vienne le 27 septembre 1529 et il neige le 15 octobre.
Et voilà.
C'est-à-dire que
ça
les Turcs ont eu 20 jours
siège,
pour prendre la ville. Or, la ville, elle est bastionnée avec des bastions à l'italienne,
solide,
si vous voulez,
oui.
C'est tout à fait solide. Alors évidemment, il y a toujours un risque. Puisque la spécialité des Ottomans, c'est d'être capable de faire sauter les murs d'enceinte. C'est-à-dire, on creuse des tunnels, on place des munitions et on veut faire sauter une porte, une coursive, etc.
Et dès qu'on a créé la brèche, on s'engouffre.
Ensuite, on s'engouffre. Voilà. Donc ici, le fait qu'il ait neigé le 15 octobre, précocement, fait que l'échec est total. C'est encore une fois la distance et la météo. Il ne faut pas partir trop tard d'Istanbul.
Voilà.
Alors, ils en ont tiré leçon. D'abord, ils sont parvenus tout de suite. Ils ont attendu 1683. Et en 1683, ils sont partis plus tôt. Et là, le siège de Vienne a duré 2 mois.
Est-ce qu'on peut parler d'une certaine manière du point de vue des Ottomans et du point de vue de Kara Mustafa qui dirigeait donc l'armée de ce grand vizir, de ce premier ministre qui dirigeait l'armée du sultan? Est-ce qu'on peut parler d'une réédition en 1683 de ce qui s'était passé en 1529? Est-ce qu'on a tiré point par point les leçons de ce qui avait eu lieu?
Ils ont tiré la leçon en partant plutôt d'Istanbul, donc ils sont arrivés plus tôt, donc le siège a pu durer
dans la composition aussi, dans la composition des armées.
La composition des armées, elle est plus hétérogène, c'est vrai, mais il y a une chose, c'est que cette armée ottomane a décidé de bien observer d'ailleurs les fortifications de Vienne. Ils se sont rendus compte, il y a 12 bastions qui entourent la ville, mais il y a un point faible. Le point faible, c'est celui qui est situé au sud-ouest de la ville, c'est-à-dire à peu près à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui la Hofburg. Et par conséquent, l'attaque a commencé ici. Et il est vrai que pendant 2 mois, nul ne pouvait décider du sort de Vienne. Il y avait des sorties qui rataient, il y avait des attaques qui ne marchaient pas. Et Kara Mustafa était soucieux de faire capituler la ville, pour des raisons bassement matérielles. Si la ville avait capitulé, c'est le chef de l'armée qui mettait la main sur tout le bulletin, à titre personnel. Si la ville se rendait, au contraire, alors là, il fallait partager avec les janissaires. Donc il attend qu'elle capitule. Il attend trop longtemps, parce que pendant ce temps, une armée de secours est en place et elle va arriver par le nord-ouest de la ville.
Alors on va bien sûr parler de cette armée de secours essentielle. C'est en quelque sorte l'énorme masse qui va venir écraser les Ottomans sur l'enclume de Vienne, d'une certaine façon. Mais avant d'en venir à cette armée de secours, un mot de l'incroyable comportement de ce Kara Mustafa qui lance l'offensive sans ordre exprès du sultan et qui ensuite attend pour attendre cette capitulation au risque de tout faire échouer.
C'était
une double responsabilité.
C'était une imprudence folle parce que ce que lui avait demandé le sultan Mehmed IV, c'était de prendre un certain nombre de villes et de garnisons qui étaient dans la boucle du Danube, par exemple Komárom. Voilà une ville qui pouvait être atteinte, ou Győr, plus à l'ouest encore. C'est-à-dire, Kara Mustafa a finalement négligé cette voie stratégique, a dépassé ces forteresses qui restaient des forteresses chrétiennes, pour aller chercher plus à l'ouest encore son objectif, c'est-à-dire Vienne. Il a non seulement désobéi aux ordres du sultan, ce qui va lui valoir le lacet de soie, bien sûr, après, mais également, il a commis beaucoup d'imprudence, puis il a surtout commis une imprudence folle.
Il joue un jeu très personnel.
C'est qu'il ne faut jamais le faire quand on est un général. Il a sous-estimé l'adversaire. Or, Starhemberg, qui gouverne donc la ville de Vienne, vous savez, la ville de Vienne a été très éprouvée déjà quelques années auparavant, puisque 4 ans auparavant, la ville a été atteinte par la peste.
Oui.
Donc c'est une ville qui est affaiblie. Et puis, il y a tous ces gens qui vivent dans un espace quand même relativement étroit, mais ils tiennent. Ils tiennent, mais on se dit, jusqu'à quand? On attend l'armée de secours. C'est ça qui va être décisif.
Alors, qui décide de la constituer, cette armée de secours, pour voler au secours des Viennois maintenant assiégés?
Alors, comme souvent, c'est le pape qui est à l'origine, comme il était à l'origine de la Sainte Ligue pour la bataille de Lépante. Donc, c'est le pape. Bien évidemment, il y a l'empereur. Il y a quantité d'autres princes souverains allemands, de Souabe, de Bavière, que sais-je encore. Les villes italiennes aussi y ont participé. On met sur pied donc une ligue et on constitue une armée. Mais encore faut-il que l'armée de secours ait le temps d'arriver à Vienne avant que celle-ci ne tombe. Et on l'attend, on imagine un peu comme dans un film du Far West, n'est-ce pas? On attend la cavalerie.
Mais c'est ça.
Et c'est le cas de le dire,
on
parce que ce
les
sont
sauveurs,
les hussards qui doivent intervenir.
On ne peut pas s'empêcher, évidemment, lorsqu'on est français, de songer au fameux siège de Calais, qui lui nous ramène au XIVe siècle, mais avec ces gens qui attendent l'armée du roi Philippe, qui n'en finit pas d'arriver et qui fait demi-tour avant de venir les libérer. Là, l'armée de secours n'a pas fait demi-tour.
Voilà, cette fois-ci, l'armée de secours secours arrivent sur les collines qui dominent le nord-ouest de Vienne. Il y en a une d'ailleurs qui s'appelle le Kahlenberg, c'est-à-dire le Mont Chauve.
Le Mont Chauve, hein.
Et aujourd'hui encore, on peut monter sur le Kahlenberg et puis on a une vue imprenable. D'ailleurs, maintenant, tout ça est urbanisé, bien évidemment. Mais on voit Vienne au pied du Kahlenberg, on voit le Danube, on voit le canal du Danube. C'est là que se postent donc les fameux hussards dont les casques sont extraordinaires. Ce sont des casques ailés. Enfin, ça doit être très, très impressionnant.
Ce sont presque les Gaulois de l'époque, ils font peur. Hein.
Et les Turcs, eh bien, sont pris entre deux feux, entre cette armée de secours qui va dévaler. Quand je dis dévaler, j'exagère un peu parce que c'est une région qui est très boisée. Il y a beaucoup de taillis, il y a même des vignes. Donc, on prend du temps, hein, pour descendre cette colline. Ils sont pris donc entre cette armée-là. Et puis, les Viennois, tout heureux de voir arriver Jean Sobieski et qui vont tirer dans le dos des Turcs. Donc, ils sont pris en tenaille et ça sera la cause de la défaite.
En fait, les Turcs ont été écrasés, hein, on peut le dire, par une double armée de secours. Enfin, quand je dis une double, une armée de secours, mais séparée en deux bras très distincts. C'est comme une tenaille.
Et ils ont tellement été impressionnés par ce choc, c'est qu'ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné, leur butin, leur tente. Et d'ailleurs, ce qui explique aujourd'hui, lorsque vous visitez le musée historique de la ville de Vienne, comme le musée historique de Cracovie,
on y
rencontre quantité d'objets qui appartenaient aux Ottomans. Non seulement des armes et des tentes qui sont encore montées aujourd'hui et des objets de valeur. Tout a été abandonné parce qu'il fallait fuir au plus vite. Fuir en Hongrie, fuir vers le sud.
Oui, ces vestiges du sièges sont très présents dans toutes sortes de musées, d'ailleurs, y compris dans les palais impériaux. On a ces armes ottomanes, on a ces casques étonnants, etc.
Il faut aussi ajouter qu'ils ont aussi abandonné des sacs de café.
Mais oui.
Et ces sacs de café, évidemment, au début, on ne savait pas trop ce que c'était et comment quel en faire l'usage. Eh bien, on a trouvé, comme vous l'imaginez bien. Et aujourd'hui, on voit à Vienne des cafés où l'on vend du café, où l'on peut boire une tasse de café, qui sont placés généralement sous une sculpture représentant un Turc en turbané. C'est vraiment le souvenir de la ville de Vienne au moment où les pâtissiers viennois réalisent des croissants.
Attention, vous êtes en train de déflorer mon retour aux origines sur les croissants. On va y venir dans un instant, bien sûr, Jean-François Solnon. Alors, c'est un échec total pour Kara Mustafa, pour les Ottomans. Est-ce que dans les années, dans les décennies qui suivent, les Ottomans essaient de trouver une revanche d'une certaine manière et...
Non, leur préoccupation, c'est surtout de défendre leur précaré. Parce qu'ils ont été chassés de Hongrie et au cours de deux traités, un de la fin du XVIIe, l'autre du début du XVIIIe siècle, le traité de Karlovitz et le traité de Passarowitz, les Turcs sont maintenant sur la défensive. C'est-à-dire qu'ils ont dû, dans un premier temps, abandonner la Hongrie et la Transylvanie aux Habsbourg, en gardant le fameux Banat de Temesvar, qui nous faisait rêver par son origine et son originalité. Et dans le deuxième traité de 1718, ils sont obligés également d'abandonner Temesvar. Ça veut dire qu'il y a un recul territorial, ça ne veut pas dire décadence, un recul territorial particulièrement net. Et ça, c'est la ligne de partage des eaux de l'histoire ottomane. Ça ne peut pas être comme par le passé. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, Vienne semble soulagée, a échappé à la menace ottomane. Et c'est à ce moment-là qu'on va construire de très nombreux palais, des palais baroques dans la ville de Vienne, véritable capitale autrichienne, débarrassée de cette hypothèque turque.
Alors, on a vu que la chrétienté s'était unie d'une certaine manière pour voler au secours des Viennois. Pas la France. Que faisons-nous, nous, pendant ce temps-là? On est quand même au sommet de la gloire et de la puissance de Louis XIV.
Eh bien, si l'on lit les pamphlets de l'époque, et en particulier les pamphlets allemands, Louis XIV, c'est celui qu'on appelle le Turc de Versailles. C'est celui qu'on appelle le très chrétien enturbané. Et en effet, parce que Louis XIV a d'autres préoccupations, évidemment, il est en train de réaliser ce qu'on appelle la politique des réunions, c'est-à-dire qu'il a annexé un certain nombre de régions géographiques au royaume de France, et il vient de ans auparavant de mettre la main sur Strasbourg. Et par conséquent, il a annoncé la couleur. Il a expliqué qu'il ne créerait pas un second front pour gêner les Habsbourg. En aucun cas, il ne va aider les Ottomans, soit par
c'est
des conseillers techniques.
C'est quand même la différence avec François
Ier. Certes, c'est assez différent. Mais Louis XIV a décidé de ne pas faire partie de cette ligue parce qu'il a ses problèmes à régler sur les frontières orientales du royaume. Et par conséquent, la Sainte Ligue se passe sans la présence de la France.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on parle si peu de ce très important siège de Vienne en 1683. Dans notre pays, on en parle très peu. Ça ne fait pas partie des dates qu'on apprend, ou peu en tout cas.
En tout cas, c'est une date qui concerne l'histoire européenne.
Mais oui, et comment ? Il faudra peut-être l'écrire, cette histoire de l'Europe, sur le modèle de l'histoire de France de Michelet un jour, pourquoi pas.
C'est... Oui, et puis vu du côté de l'adversaire,
eh bien, c'est ça.
Parce qu'il ne manque pas d'intérêt.
Voilà, c'est un devoir de vacances pour vous, Jean-François Saulnon. Je rappelle le titre de votre maître livre sur ces questions ottomanes et européennes, Le Turban et la Stambouline, affrontement et fascination réciproque entre l'Empire ottoman et l'Europe. Donc, ça a été publié chez Perrin en 2009. Merci beaucoup.
Merci.
On se retrouve dans un instant et nous resterons dans les environs de Vienne. Franck Ferrand vous répondra à la question de l'INSEE sur les origines du croissant et des viennoiseries.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de l'INSEE qui vous demande via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, quelles sont les origines du croissant et des viennoiseries.
Il est incontestable, enfin vous allez me dire si je me trompe après tout, Jean-François Saulnon, que les croissants datent de 1683 en Occident et de ce second siège de Vienne. Alors il y a deux versions à propos de la naissance du croissant. La première dit que les Ottomans ayant décidé d'attaquer la nuit pour ne pas se faire remarquer, les boulangers viennois qui s'étaient levés bien avant l'aube ont donné l'alerte et pour les féliciter de leur aide, il leur a été permis à la fin du siège de confectionner des Hörnchen, ce qui veut dire petites cornes en allemand, des pâtisseries dont la forme rappelle bien sûr le croissant, symbole du drapeau ottoman. Bon, ça c'est la première version. Il y en a une autre qui attribue l'invention du croissant à un Polonais qui s'appelait Kuchitsky. Avant de s'installer à Vienne, cet homme a passé un long séjour à Constantinople, il a servi d'interprète. Il a gardé des habitudes orientales, bien entendu, comme le goût pour le café dont nous parlions avec vous il y a un instant. Et après le siège de Vienne et la fuite des Ottomans, pour le remercier de hauts faits accomplis pendant le siège, parce qu'il a fait partie de ceux qui ont défendu véritablement et activement la ville, eh bien, la municipalité viennoise lui aurait offert près de 500 sacs de café laissés par les Ottomans. Kuchitsky, dès lors, a droit de vendre du café dans une échoppe. Ce café devient donc le tout premier café viennois. Ça devait être extraordinaire d'aller chez ce Kuchitsky. Et il va accompagner le service du café d'une pâtisserie en forme de croissant. J'ai presque envie de dire que les deux options sont possibles.
Moi, je crois qu'il faut rendre hommage aux Polonais, donc je vais préférer la deuxième version.
D'accord. Bon, on voit à quelle rigueur historique obéit ce choix, évidemment. Quant au terme de croissant, il est plus ancien, lui. Il datait de 1549, puisque à l'occasion d'un banquet offert par Catherine de Médicis en 1549, donc 40 gâteaux en croissant ont été servis. Il faut vous dire que le banquet en question était donné en hommage au grand turc, puisque c'était une ambassade de la Sublime Porte qui était reçue à Paris ce jour-là. Voyez finalement comme tout se tient et comme nos relations avec Istanbul et avec les Turcs ont en quelque sorte une certaine antériorité dans cette affaire.